Tu sais, je m'intéresse beaucoup à l'environnement.
Moi, j'aime qu'on me parle de la santé ou de l'éducation.
Et les questions de l'entrepreneuriat me préoccupent beaucoup.
Et surtout, tout ce qui touche à la protection de l'enfant m'intéresse beaucoup.
Justement, pour parler de tout ça, l'UNICEF et Radio Okapi ont préparé ces programmes. Le magazine Bana Okapi, pour vous, avec de la musique aussi.
Bonjour chers auditeurs de Radio Okapi, quel plaisir de vous retrouver aussi nombreux pour votre émission préférée, Bana Okapi, votre rendez-vous quotidien réalisé en partenariat avec l'UNICEF qui donne la parole aux jeunes, aux plus jeunes et aux parents à travers la RDC du lundi au vendredi de 15h30 à 17h. Nous explorons ensemble les réalités et le rêve de la nouvelle génération. Aujourd'hui, Bana Okapi vous emmène au cœur du Kasaï oriental dans la ville de Mbujimayi pour parler d'une question cruciale pour l'avenir de cette région, l'entrepreneuriat de jeunes. Face au défi du manque d'emploi, ces initiatives audacieuses apparaissent comme une lueur d'espoir, une voie possible pour sortir le jeune de la pauvreté. Cependant, la route de l'entrepreneuriat n'est pas toujours pavée des succès. Dans les Kasaï, de nombreux obstacles se dressent sur le chemin de ces jeunes entrepreneurs, freinant leur élan et impactant leur développement. Alors, quels sont ces défis? Comment les surmonter? Dans ces magazines, nous mettrons également en lumière des initiatives locales, ingénieuses et inspirantes. Des exemples concrets de jeunes qui, malgré leurs difficultés, innovent, créent et se développent. Des histoires porteuses d'espoir qui montrent que rien n'est impossible avec de la volonté. Alors, restez bien à l'écoute des Bana Okapi. Christelle Fritti, c'est bien moi. À la présentation de cette émission, Dieudonné Nyangasa wa Nyangasa, la mise en onde. Christian Mapenda Noya Chris coordonne ses programmes sous la supervision de Jean-Marc Matwaki. Okapi. Okapi. Pour cette édition spéciale de Bana Okapi, notre équipe s'est rendue à Mbujimayi, au plus près de jeunes entrepreneurs qui façonnent l'avenir économique de la région. Nous avons recueilli leurs témoignages sur les défis rencontrés et leurs stratégies inspirantes pour les surmonter. Notre première rencontre nous mène au cœur du secteur agricole, auprès de Titiane Nyona. Spécialisée dans l'élevage et la commercialisation de poulets, Titiane incarne cette jeunesse qui transforme les obstacles en tremplin. Pour elle, le courage et l'expérience sont le maître mot de la réussite entrepreneuriale. Elle raconte son parcours au micro de Pascal Chinamoula.
Bonjour madame.
Bonjour.
Parlez-nous de votre business. Qu'est-ce que vous faites exactement comme métier?
Alors moi, j'ai commencé avec l'élevage de poulets. Et par rapport aux difficultés que j'ai eu à avoir, j'ai dû m'investir dans presque toute la chaîne de valeur. Bon, je dis presque toute parce que à partir du poulet, on a pu développer la transformation et aujourd'hui on est avec la restauration.
Pourquoi vous avez choisi cette voie d'entrepreneuriat, surtout dans l'élevage et l'agriculture?
Voilà, pourquoi dans l'élevage de poulet principalement? Parce que la viande de poulet, c'est une viande qui est très consommée ici dans notre pays. Les grandes importations, le poulet fait aussi partie. Mais il y a des fois, le marché est vide des poulets importés. On ne va même pas parler de poulets élevés localement parce que c'est fait vraiment de façon à très faible quantité. Alors j'ai vu ça comme un gros gâteau sur lequel je peux aussi me jeter pour tirer une partie du gâteau. Quoi.
Qui sont vos principaux consommateurs, les consommateurs de vos produits? Est-ce que c'est seulement Mbujimayi ou bien vous parvenez aussi à étendre le produit?
Pour le moment, c'est vraiment Mbujimayi. Nous sommes vraiment concentrés sur Mbujimayi.
Dans votre projet, est-ce que vous avez réussi un financement de la part de l'État ou d'autres structures qui financent entrepreneuriat?
Alors de l'État pour le moment non, mais à travers Incubacor, on a pu récemment avoir un financement pour pouvoir booster nos activités. C'est un financement qu'on appelle couramment leasing, donc on vous donne du matériel, de la matière première que vous allez évaluer à un montant et vous allez rembourser progressivement avec un intérêt qui est vraiment très très minime.
Est-ce que vous connaissez beaucoup de jeunes ici à Mbujimayi qui ont des ambitions d'entreprendre mais qui hésitent? Et si vous les connaissez, pourquoi vous pensez qu'ils hésitent à se lancer dans l'entreprise?
Oui, j'en connais beaucoup. Déjà, maintenant qu'on parle d'entrepreneuriat, c'est devenu une tendance. Voilà, tout le monde veut vraiment faire quelque chose. J'en connais beaucoup qui hésitent. Les raisons de l'hésitation, on peut parler de la peur de... Voilà, l'entrepreneuriat, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, on se lance un peu comme si on se jette dans le vide. On saute d'une montagne, on se jette dans le vide, on ne sait pas où est-ce qu'on va atterrir. Voilà, cette peur-là de pouvoir prendre son argent et mettre dans quelque chose qui, peut-être, ne va même pas marcher. Voilà, il y a cette peur-là. Et aussi, le manque de financement de départ. Voilà, c'est aussi difficile. Beaucoup de gens ici déjà, pour avoir un travail, pour pouvoir épargner, c'est difficile. Alors, pouvoir trouver un financement pour pouvoir aussi se lancer, c'est aussi difficile. Mais aussi, le manque d'initiation. C'est maintenant vraiment qu'on commence vraiment à vouloir se lancer dans ça. Ici, en Bujimaï, on était beaucoup plus, voilà, il faut que je termine d'étudier, je trouve un poste, voilà, je travaille quelque part. Et...
Selon votre expérience, quels sont le véritable... défi de l'entrepreneuriat dans une ville comme celle de Mbujimaï?
Voilà, les défis, ils sont vraiment légion. En Mbujimaï, on parlait tout à l'heure du courant. Le courant, c'est vraiment un gros problème. Là, moi, par exemple, actuellement, j'ai un groupe électrogène. On est obligé de consommer du carburant et c'est vraiment beaucoup d'argent à la fin du mois quand on fait la comptabilité. C'est pas vraiment intéressant. Et aussi, le pouvoir d'achat. Ici, vraiment, il n'y a pas beaucoup d'entreprises. Ça veut dire que l'argent ne circule pas vraiment très facilement comme ça. On a aussi l'accès à des intrants. C'est très... Par exemple, moi, dans mon domaine, quand je produis, pour faire le deuxième cycle, je suis obligée d'attendre même encore un mois, rester sans production pour pouvoir avoir encore de la nouvelle matière première pour lancer la production. Donc, on a vraiment difficulté d'accès aux routes, difficulté d'accès à l'électricité et aussi le pouvoir d'achat qui est très...
Est-ce qu'il n'y a pas des matières premières qu'on peut trouver sur le marché local?
Les matières premières, il y en a, mais la fabrication... Par exemple, l'aliment pour la volaille, on a le maïs, on a le soja, bien que c'est produit en très petite quantité, mais il faudrait faire un mélange grâce à une formule qui va permettre d'élever et avoir un rendement consistant. Alors ici, localement, il n'y a pas, par exemple, de provenderie, une entreprise qui fabrique l'aliment réservé au bétail, il n'y en a pas. Donc vous pouvez avoir de la matière première, mais on en fait quoi? Il faudrait formuler maintenant ça. Et...
Maintenant, comment vous faites pour surmonter tous ces défis? Vous en avez cité plusieurs, mais quand même, malgré tous ces défis, vous tenez. Comment vous tenez?
Oui, alors on tient parce que les difficultés, c'est partout. Donc les difficultés, on peut aussi considérer les difficultés comme une opportunité de transformer. Voilà, de transformer ces difficultés-là en business. On ne se rétracte pas derrière les difficultés. Il faudrait justement, c'est le courage, cette capacité de résilience qu'on a déjà développée ici. Parce qu'ici, prenons l'exemple des pays désertiques, ils arrivent quand même à produire parce qu'ils font face à une difficulté. Quand on fait face à une difficulté, on trouve directement un moyen pour s'en sortir aussi très facilement. C'est ça qu'on appelle en fait de l'expérience. L'expérience, c'est quand vous faites face à une difficulté, que vous arrivez à sortir de cette difficulté, que vous devenez quelqu'un d'expérimenté.
Est-ce qu'il est arrivé un moment où vous, personnellement, vous avez voulu abandonner?
Oui, plusieurs fois même. Plusieurs fois j'ai voulu abandonner parce que je suis aussi vraiment passée par beaucoup de choses. Bon, mon histoire, elle est un peu longue. Je sais pas, on aura le temps peut-être d'en parler après. J'avais déjà lancé, j'ai connu un incendie là où je travaille. Tout était carrément parti en fumée. Mais j'avais voulu vraiment abandonner, mais les gens, la communauté que j'avais créée autour, elle m'a vraiment donné la force de pouvoir continuer et voilà.
Quelles sont les personnes que vous avez connues, des personnes dans cette carrière qui vous ont soutenu et qui vous ont propulsé, qui vous ont encouragé malgré les défis que vous avez rencontrés?
Alors moi, je remercie beaucoup ma famille parce que c'est elle qui m'a soutenue depuis le début, avant que je ne rencontre d'autres structures comme l'Incubacor aussi. C'est vraiment ma famille qui m'a soutenue jusqu'ici, beaucoup. Et aujourd'hui, on a maintenant l'Incubacor, l'accompagnement technique et puis l'accompagnement financier. Ça m'a permis quand même de vouloir rester encore et attaquer encore le marché.
Êtes-vous fière de votre travail?
Je suis très fière, j'aime beaucoup mon travail. J'aime beaucoup ce que je fais. Je sais que j'apporte de la valeur dans la communauté et je sais que beaucoup aussi s'inspirent de ce qu'on fait.
Cette valeur, quelle est la valeur ajoutée de votre travail, de votre entrepreneuriat sur la vie sociale et économique des habitants de Bujimaï?
Alors moi, ce que je fais, je transforme le poulet élevé localement. Beaucoup de gens font de l'élevage, mais c'est très difficile de les vendre sur le marché. Connaissant le prix d'un poulet vivant sur le marché, c'est très difficile. Alors moi, je collabore avec tous ces producteurs. Leur production, ils produisent pour directement emmener dans mon entreprise pour que je puisse les transformer. Donc mon entreprise donne l'opportunité à ceux qui élèvent de pouvoir vendre sur le marché.
Un conseil à donner aux jeunes qui veulent se lancer dans le domaine entrepreneurial, mais qui rencontrent des difficultés, toi tu es passé par ce chemin, quel conseil tu peux donner à toutes ces personnes-là qui ont des idées, qui ont des initiatives, mais qui hésitent à se lancer?
Moi je vais donner trois conseils. Le premier, c'est qu'il faut avoir beaucoup de courage pour pouvoir affronter surtout l'entrepreneuriat ici en Bujimaï. Deuxièmement, il faut se faire accompagner. Et troisièmement, il faut se créer une communauté. Voilà, la communauté parfois c'est important. La clientèle, ça fait partie aussi de la communauté. Moi, c'est vraiment ma clientèle qui m'a permis. On a créé vraiment une communauté. C'est elle qui me permet aujourd'hui de rester sur le marché. Elle me donne la force de pouvoir rester sur le marché.
Madame, la radio Capu vous remercie.
Merci, c'est moi qui vous remercie.
Notre exploration du dynamisme entrepreneurial de Mbujimaï s'est poursuit avec la rencontre de Sele Kayembe. Passionné par le vénementiel, un secteur dans lequel il évolue depuis plusieurs années, Sele a fait le choix audacieux de suivre sa vocation, quitte à laisser derrière lui d'autres perspectives. Pour lui, l'épanouissement professionnel réside avant tout dans l'exercice d'un métier qui nous anime profondément. Découvrez les récits de son parcours et de ses convictions au micro de Pascal Chinamoula.
Je m'appelle Sele Kayembe, je suis entrepreneur. Je propose des services techniques et événementiels d'une manière générale.
Est-ce que vous pouvez nous parler de ces services que vous faites, services événementiels? Comment vous faites?
Bien, nous commençons d'abord par la planification. Alors nous assistons les équipes chargées des organisations et s'il n'y a pas d'équipe prévue, nous nous proposons nous-mêmes comme agence à consulter pour la planification des événements. Et dans la planification, nous prévoyons bien sûr tout ce dont on a besoin, tout ce qu'il faut pour la réussite de l'activité. Et cela peut se présenter en termes de produits ou en termes de services. Dans les produits, il peut y avoir besoin des impressions, donc des conceptions graphiques, ainsi que des impressions sur polo, sur bâche, sur différentes formes de tissus. Ça peut aussi être sous forme de service, notamment la sonorisation, la décoration, le shooting photo, la production vidéo et le service traiteur. Ça peut être le service des hôtesses d'accueil, les services protocole et sécurité. Ce sont tous des services que nous proposons au niveau de notre agence événementielle.
Pourquoi vous avez choisi d'entreprendre dans ce domaine événementiel? Est-ce que c'était une carence ici à Mbujimaï ou bien c'était une passion pour vous?
Je dirais les deux. C'est depuis plus de 15 ans que je suis dans l'événementiel. C'est quelque chose que je faisais par passion. J'ai participé à beaucoup d'événements très jeunes et j'ai acquis une certaine expérience. Et c'est plus tard que j'ai pensé à monétiser ces services que j'offrais de bonne foi, gratuitement aux gens, aux proches, aux amis, aux connaissances. Ce qui m'a poussé à monétiser, c'est le nombre des sollicitations. Je recevais beaucoup d'appels, beaucoup de demandes pour mes prestations. Vu que je m'étais quand même déjà fait une certaine réputation, je me suis dit, je peux faire de cette activité que j'affectionne une source de revenus. J'ai dû même résilier un de mes contrats pour en faire une activité principale.
Avoir renoncé à certaines de vos activités, moi je m'intéresse particulièrement à cet aspect. Est-ce que c'est parce que vous avez trouvé beaucoup plus de revenus dans le travail événementiel ou carrément vous ne vous sentiez pas mieux ailleurs?
Bon, je pense que le travail, au-delà de l'aspect financier, il y a l'accomplissement de soi et l'épanouissement qui sont beaucoup plus importants. Le sentiment de bien-être que j'ai quand j'exerce mes activités, je ne le trouvais pas dans mon emploi salarié. Et en faisant quelque chose qu'on aime et en étant payé pour ça, ça fait vraiment plaisir. On a envie de s'y consacrer à temps plein et de partager cette passion-là avec ses équipes. C'est ce plaisir-là qui m'a poussé à résilier ce contrat qui était pourtant très bien vu par beaucoup. C'est une décision que beaucoup n'ont pas compris, même dans le cercle proche. Mais moi, je connaissais ma vision, je savais où est-ce que j'étais en train d'aller. Et c'est une décision que j'ai prise il y a quelques mois, environ une demi-année maintenant. Et je ne regrette pas du tout. Au contraire, mes activités ont pris une toute nouvelle ampleur depuis cette décision-là. Je comprends donc que c'était la bonne chose à faire.
Est-ce que dans ce travail, vous avez rencontré des défis? Et si oui, comment vous les avez affrontés pour persister sur le marché?
L'entrepreneuriat est indissociable avec les difficultés et les défis. Déjà, nous sommes dans une ville enclavée de tous côtés et le matériel avec lequel nous travaillons, vu que nous visons une bonne qualité, n'est pas toujours disponible localement. Et quand c'est le cas, le prix d'acquisition est très élevé. En conséquence, si on se ravitaille totalement ici, on a un coût de démarrage qui est trop important. Et du coup, amortir ce que nous avons acheté, c'est un réel défi. Face à cela, nous avons pensé à combiner quelques commandes vers la capitale ou vers d'autres villes ou même en dehors du pays avec l'utilisation et le recyclage de certains matériaux locaux, notamment le bois, pour fabriquer les caissons des baffles. Et nous commandons les baffles par voie à Kinshasa ou en dehors du pays. Il y a aussi la fiscalité. Il a fallu qu'on puisse se renseigner à la source pour ne pas être mal orienté par certaines personnes. Nous sommes allés au niveau des entreprises fiscales et financières qui gèrent les fonds de l'État pour savoir exactement quels sont nos devoirs et nos obligations en termes fiscaux. Et nous avons fait l'effort de nous acquitter, nous sommes en ordre. Et cela fait que nous pouvons exercer nos activités tranquillement, nous recevons les agents. Dès qu'on présente les documents, cette difficulté-là est élaguée.
Est-ce que vous en connaissez d'autres jeunes de Mbujimayi qui voulaient se lancer dans l'entrepreneuriat, mais qui rencontrent des défis, des problèmes? Est-ce que ces problèmes, s'ils les rencontrent, ils sont dus à quoi, généralement, les jeunes?
Généralement, quand on les écoute, parce qu'ils nous voient évoluer, ils viennent parfois nous consulter. Et quand on les écoute, il y a presque les mêmes problèmes qui reviennent. L'accès aux outils, aux équipements pour commencer et surtout l'accès au financement. Beaucoup de jeunes, vous allez les entendre parler du financement comme d'un aspect qui les freine. Mais c'est pas un vrai problème à mon avis parce que le financement ne doit pas être la chose prioritaire à laquelle on pense quand on veut lancer un projet. C'est possible de commencer de zéro, de trouver des moyens de réunir certains fonds, se lancer à petite échelle et puis croître progressivement.
Tous ces jeunes que vous rencontrez, comment vous les orientez? Est-ce que vous leur donnez des explications, des conseils ou des orientations?
Lorsqu'on veut se lancer dans l'entrepreneuriat, il faut d'abord trouver la raison pour laquelle on veut le faire. C'est ça même qui va animer de l'intérieur la personne. Face aux défis, aux difficultés, elle ne va pas abandonner parce qu'elle a une vision. Pourquoi il veut être entrepreneur? C'est par là que je commence généralement avec eux. Cet échange-là va les aider à voir s'ils ont vraiment ce qu'il faut pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Si les raisons pour lesquelles ils veulent se lancer en valent la peine. Parce que si on n'a pas des fondements solides pour se lancer, très vite, à la première tempête, on va lâcher. Donc je les aide à puiser au fond d'eux-mêmes les raisons profondes qui les pousseront à se lancer dans l'entrepreneuriat. Je mets devant eux les possibilités qui s'offrent à eux. Par exemple, on peut s'associer avec une autre personne pour acquérir d'abord des connaissances et des compétences nécessaires. Parce que dans l'entrepreneuriat, on doit avoir quelque chose à donner pour pouvoir recevoir ensuite. Et beaucoup de jeunes veulent se lancer sans avoir des réelles compétences ou des connaissances à transmettre ou à donner, mais veulent seulement recevoir du financement afin de lancer leurs activités. Donc, je les aide à voir qu'est-ce qu'ils ont en eux, qu'est-ce qu'ils peuvent proposer, quel est le besoin qu'il y a sur le marché. Donc on fait en fait une analyse avec eux, une analyse interne à leur niveau et externe au niveau du marché pour les aider à voir comment se positionner et se lancer.
Est-ce que vous avez un message à transmettre à ces jeunes de Mbujimayi qui ont beaucoup des idées, des initiatives, de rêves, mais qui hésitent à se lancer dans l'entrepreneuriat?
Je pourrais leur dire le jeu en vaut bien la chandelle. L'entrepreneuriat, ce n'est pas un domaine facile. Il y a des difficultés, il y a des défis, très bien. Si un jeune a ce feu qui brûle en lui, qu'il n'hésite pas, qu'il se rapproche des structures d'accompagnement, qu'il se rapproche de ceux qui se lancent et qui réussissent pour apprendre d'eux, qu'il se jette à l'eau et qu'il puisse tenter, pourquoi pas réussir.
Monsieur Seleka Aimé, nous vous remercions pour ces témoignages.
C'est moi qui vous remercie.
L'isolement est un piège fréquent pour les jeunes entrepreneurs. Le manque de conseils avisés, de soutien pour développer leurs compétences et d'accès limité aux informations cruciales sont autant de facteurs qui minent leurs chances de succès. C'est le constat que partage avec nous M. Eric Josué Chimpaka, qui a accepté de revenir sur son propre parcours entrepreneurial au micro de Sarah Sumbela.
Bonjour monsieur.
Bonjour madame.
Vous connaissez quelques notions de l'entrepreneuriat?
Oui, j'ai été formé par Inabel à un certain temps pour entreprendre.
Avez-vous déjà essayé de vous lancer dans l'entrepreneuriat?
Oui, je l'ai déjà essayé plusieurs fois, mais par manque de plus d'expérience, je n'arrive pas au bout.
Qu'est-ce qui s'est passé?
Il se fait que, par peut-être manque de temps, on engage les frères ou les amis qui ne sont pas initiés et qui se contentent de prendre l'argent, faire ce qu'ils veulent au moment où on s'époumonne pour faire avancer l'activité, que si vous ne tirez pas d'attention, tout part en vain.
Et vous pouvez nous relater votre expérience personnelle, comment ça s'est passé?
Oui, j'en ai plusieurs, mais une seulement. J'ai gagné l'argent dernièrement comme chef de centre CENI. En amenant l'argent, j'ai contacté quelques gambistes de la ville auprès de qui j'ai donné la somme pour travailler, mais donné quelque chose à la fin de la journée. Mais comme c'était pas rassurant et tout, ils ont emporté l'argent et ils sont partis. Jusque là, je ne sais pas les retrouver. J'ai perdu l'argent et tout ce que j'avais comme ça.
Et alors, sur le coup, comment vous vous êtes senti? Est-ce que ça vous décourage de vous lancer dans l'entrepreneuriat?
Le même moment où j'ai chuté, j'ai raté. J'avais eu le dégoût de l'entrepreneuriat, mais j'ai réuni le courage pour refaire quand même. Et je trouve que malgré la perte ou l'échec, je ne dois pas croiser les bras, je dois encore me débrouiller autrement.
Merci beaucoup, Monsieur Josué.
Merci, Madame.
Tu sais, je m'intéresse beaucoup à l'environnement.
Moi, j'aime qu'on me parle de la santé ou de l'éducation.
Et les questions de l'entrepreneuriat me préoccupent beaucoup.
Et surtout, tout ce qui touche à la protection de l'enfant m'intéresse beaucoup.
Justement, pour parler de tout ça, l'UNICEF et Radio Okapi ont préparé ces programmes. Le magazine Bana Okapi, pour vous, avec de la musique aussi.
Et nous voici de retour dans Bana Okapi, votre magazine préféré. Vous êtes toujours avec nous pour cette exploration essentielle de défis que rencontrent les jeunes entrepreneurs de Mbujimayi. Si vous venez de nous rejoindre, soyez le bienvenu. Dans cette seconde partie, nous allons aborder la problématique de financement des entrepreneurs de Mbujimayi. Comment obtenir un crédit bancaire quand on est jeune et qu'on s'élance? Quels sont les obstacles et les solutions possibles? Mais ce n'est pas tout. Nous allons également vous présenter des exemples concrets de résilience locale, des initiatives ingénieuses qui permettent à ces jeunes entrepreneurs de surmonter les difficultés et de tracer leur propre chemin vers le succès. Votre magazine Bana Okapi se poursuivra jusqu'à 17h heure de Kinshasa. Christelle Fritti, c'est bien moi. À la présentation, Dieudonné Nyangasa Onyangasa assure la mise en onde de Christian Mapenda Noya Chris Cordon de ses programmes sous la supervision de Jean-Marc Matouaki.
Grâce à Internet, la radio d'aujourd'hui s'écoute aussi quand vous êtes disponible et pas seulement en direct. Radio-Okapi.net, téléchargez et conservez vos émissions préférées. Dialogue entre Congolais, parole aux auditeurs et Okapi Service. Téléchargez l'émission de votre choix. Vous l'écoutez quand vous le souhaitez. Radio-Okapi.net, la radio en différé à votre service.
L'entrepreneuriat est souvent présenté comme une solution durable pour l'autonomisation de jeunes en RDC. Dans cette optique, la Banque mondiale et l'État congolais ont mis en place un fonds de financement dédié à l'encadrement de jeunes entrepreneurs. Ces soutiens financiers sont censés leur permettre de lancer leurs activités et de contribuer ainsi au développement de la province. Pourtant, la réalité en Mbujimayi est amère. La majorité de ces entrepreneurs n'en ont jamais bénéficié. C'est le constat que dresse Dominique Ilunga, directeur provincial de la FEC Kasaï Oriental. Il est au micro de Sarah Sumbela.
Les jeunes entrepreneurs de Mbujimayi bénéficient-ils de subventions de l'État?
Malheureusement, c'est ça le problème. Vous savez, le problème, c'est qu'il y a moyen que le Congo change le modèle économique de son extraversion vers l'introversion de l'économie, à condition qu'on investisse beaucoup plus à développer la production locale, à développer la production locale dans tous les domaines, surtout dans le domaine de l'agriculture et dans le domaine de l'élevage et autres. Mais malheureusement, il n'y a pas assez d'argent. Il n'y a pas assez d'argent pour pouvoir soutenir, surtout quand on sait que c'est une activité qui demande beaucoup de moyens, qui demande beaucoup d'accompagnement et qui a trop de risques là-dedans. Donc il faudra vraiment que l'État s'investisse. C'est vrai qu'il y a aujourd'hui sur terrain le programme Transform. C'est le programme Transform, mais comme vous savez, tous les programmes qui viennent de la Banque mondiale, il y a toute une procédure un peu longue tout juste après, qui font que les jeunes gens qui ont été, les dames et tout le monde sélectionnés, sont encore jusque-là depuis 2 ans que le programme est sur terrain, encore en formation, ils doivent apprendre ceci, apprendre cela, avant que effectivement l'argent atterrisse et qu'on l'investisse dans la production. Donc ça prend encore du temps. En dehors de ces programmes de transforme, il y a eu un peu semblant de FOGEC, mais malheureusement, ils sont partis pour ne pas revenir, et là, ça a découragé tout le monde. Et voilà, on a parlé de financement au niveau national, mais ça n'a jamais été le cas ici en province. Mais voilà tous ces fameux problèmes.
Comment la FEC accompagne les jeunes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat?
Oui, effectivement, la jeune les encadre tout d'abord dans la formation de ce que c'est une entreprise, comment on la gère, dans la formalisation de leurs activités, en obtenant des documents pour eux et en les accompagnant par rapport aux différentes taxes et impôts qu'ils doivent payer, et discuter avec certains services de l'État et en gardant bien sûr un réseau de jeunes, un réseau d'entreprises, parce que nous avons au sein de la FEC le comité de jeunes entrepreneurs. C'est à travers ce jeune que nous discutons, nous voyons quels sont leurs problèmes réels qui relèvent de l'entrepreneuriat de jeunes. Et voilà, à ce moment-là, nous essayons de voir dans quelle mesure ces problèmes peuvent trouver.
Quels sont les défis de l'entrepreneuriat de jeunes ici à Mbujimayi?
Ces mêmes défis ne sont pas seulement pour le jeune, les sont également pour toutes les grandes entreprises installées qui sont ici. C'est le premier défi, c'est l'enclavement de la province. Ça pose un grand problème dans la mesure où, pendant la saison sèche, il est facile qu'on ramène un camion de Lubumbashi dans moins d'une semaine. Mais pendant la saison de pluie, le même camion peut vous mettre 4 à 5 mois pour qu'il vous arrive. Et là, ça pose un problème. Nous avons le problème de courant électrique. Ajouté à cela, nous avons le problème de manque de financement et aussi un problème de liquidité qui pose problème dans la ville, dans la mesure où la MIBA, la SACIM, qui injectait suffisamment de l'argent pour pouvoir financer la consommation, sont aux arrêts et ça pose problème. Et ces problèmes sont au quotidien vécus par les investisseurs.
Alors, quels sont les domaines qui attirent plus les entrepreneurs ici à Mbujimayi?
Effectivement, il y a, comme je le disais, beaucoup plus le commerce général. Ils partent à Lubumbashi, ils achètent tout ce qu'ils peuvent acheter, ils le ramènent. C'est le cas également à Kinshasa, et également Mwanda, là pour tous ceux qui font du carburant, parce que le secteur là est tenu par le pétrolier indépendant qui partent vers les frontières d'Ilolo, Kaemba, Chikapa vers tout ça, et Mwanda, ils achètent des carburants, ils les amènent ici, ils partent à Kinshasa, ils achètent des produits, et même au niveau des frontières, ils achètent des farines de froment qui sortent de l'Angola, ils achètent du sucre, ils achètent tous ces produits-là, ils les ramènent ça vers le Mbujimayi, vers Kassai Oriental, pour être consommé, et parce que ici rien n'est produit. Mais également, il y a aujourd'hui, avec le problème de Brasimba qui a fermé, tous ces opérateurs économiques partent vers Katanga acheter la bière, même vers Kinshasa acheter de la bière, ils ramènent ça à travers le véhicule jusqu'en Mbujimayi et ça se consomme. Ils partent vers Bukama, ils achètent des poissons salés, ils partent vers Tanzanie également, ils achètent du sel. Donc tous les produits de première nécessité sont amenés de l'extérieur à travers ces opérateurs économiques, ces entrepreneurs qui se battent tant bien que mal. Il y a également aujourd'hui le domaine de construction avec tout ce qu'il y a comme travaux qui sont sur terrain et qui attire également, et il y a des jeunes ingénieurs qui se mettent pour pouvoir aussi développer des entreprises de construction et de génie civil. Ben aussi les domaines de transport, parce que le transport nous aide avec des camions qui partent vers Lubumbashi, qui partent vers Kinshasa, et ça attire les jeunes ainsi de suite. Et aujourd'hui, l'événementiel est aussi au rendez-vous avec les jeunes, la couture, le débit de boissons, l'inganda, les hôtels. sont au rendez-vous aujourd'hui au Kassai oriental et ça attire les jeunes gens.
Merci beaucoup, Monsieur Dominique.
C'est moi qui vous remercie.
L'une des pierres d'achoppement majeures pour l'essor de l'entrepreneuriat chez le jeune réside dans le déficit de formation. Un manque crucial d'études de marché conduit trop souvent à une incapacité d'identifier les opportunités économiques pourtant bien réelles sur le terrain. Face à cette réalité, une lueur d'espoir émane dans la propre jeunesse entrepreneuriale de Mbujimayi. Des acteurs locaux expérimentés ont pris l'initiative de créer un incubateur, une structure essentielle pour accompagner et former le nouveau venu dans l'univers du business. Pour comprendre concrètement le fonctionnement et l'impact du projet incubateur, écoutons M. Christian Kabeya-Chiekela, son directeur.
Monsieur Christian, bonjour. Pouvez-vous nous définir à des termes simples ce qu'est un incubateur?
Bonjour, merci. Alors, l'incubateur, dans des termes très simples, je donne un peu l'exemple d'une couveuse. C'est que dans une couveuse, on prend un œuf qui est dans un état embryonnaire. Et alors, l'état embryonnaire, ça veut dire quelque chose qui est fragile. Alors, on est obligé de prendre cette histoire qui est fragile, le faire passer dans un dispositif qui va vraiment s'occuper de le mettre dans les conditions nécessaires pour son développement, pour son éclosion. Et dès que cet œuf est clos, c'est que ça devient un poussin qui peut maintenant grandir, évoluer comme tous les autres poussins naturellement. Donc c'est juste ce concept, ce principe que nous avons pris pour l'adapter à l'entrepreneuriat. Étant donné que nos bénéficiaires sont des jeunes, ce sont des porteurs d'idées de projets, donc il a été démontré que les porteurs d'idées de projets, quand ils ne sont pas accompagnés par des structures spécialisées, c'est des projets effectivement qui sont subis à toute réalité d'un œuf qui est encore l'état embryonnaire.
Y avait-il un besoin ici à Mbujimayi pour que vous puissiez créer cette structure?
Effectivement, il faut reconnaître que les jeunes, les statistiques démontrent qu'il y a un taux élevé de cette proportion de la population qui est frappée par le chômage. Alors, on se dit, qu'est-ce qu'on fait? C'est vrai qu'on a vu effectivement qu'il y a des jeunes qui avaient des idées, qui avaient ces initiatives et pour lesquelles effectivement le projet n'arrivait pas à terme. Donc on s'est basé sur ces jeunes-là pour nous dire commençons quelque chose, pourvu que ces jeunes-là puissent être nos ambassadeurs. Mais du coup, on ne s'est pas limité à cela. On a compris que pour avoir plus de jeunes, il fallait qu'on mette autour de notre théorie des changements des activités qui puissent permettre à ce qu'on atteigne des résultats efficients. Et c'est comme ça qu'on a fait de l'animation de l'écosystème une activité très phare. C'est notamment la sensibilisation de ces jeunes. On organise des activités de sensibilisation. On a dû mettre en place un club d'entrepreneurs pour faciliter les échanges d'expériences et créer plus d'initiatives au niveau des jeunes. Et aujourd'hui, je vous assure que ça marche. Et on sait évaluer cela au travers des appels à projets. Et quand on lance un appel à projet, vous sentez que vous avez vraiment un afflux de jeunes qui viennent pour solliciter le service de l'incubateur.
Que bénéficient les jeunes entrepreneurs en intégrant votre structure pour devenir membre?
Alors, très bien. Donc, il faut reconnaître que déjà, c'est des cibles qui sont, s'il faut le dire, qu'on les a comparées à un œuf. Donc, on développe un peu un concept de vulnérabilité qui les caractérise. Et donc, parce qu'ils sont face à plusieurs défis, donc la meilleure manière pour nous d'apporter une solution à leurs besoins, ce n'était pas non plus de leur demander, de leur offrir des services qui sont payants. Raison pour laquelle nous saluons le partenariat que nous avons avec l'Agence pour le développement au travers son programme formation en plan entrepreneuriat. C'est au fait, au travers eux et nos missions à nous en tant qu'ASBL, qu'on a pu bénéficier d'une convention de subsides dont le partenaire paye pour que nous puissions accompagner ces entrepreneurs avec une offre de services non financières. De quoi il s'agit? C'est qu'on prend votre idée de projet, vous venez avec une idée, mais à la sortie, vous sortez avec un projet structuré, avec un business plan qui est bancable.
Est-ce que vous les aidez à obtenir de financement, je veux dire?
La réalité, c'est qu'on ne fait pas d'emblée cette promesse, mais notre théorie de changement veut à ce que, à l'issue de l'accompagnement non financier, pour lequel le livrable est un business plan bancable, qu'on puisse, au niveau de l'écosystème entrepreneurial, faciliter l'accès à ces entrepreneurs vers des opportunités de financement. D'un côté, nous-mêmes, au niveau de l'ASBL, nous disposons des fonds, et on a mis en place un mécanisme pour lequel les entrepreneurs ont accès au financement via la location-vente. C'est que, après avoir identifié les besoins dans leur business plan, on les achète, on leur met à leur disposition, et en contrepartie, sur 100% de ce qu'il doit recevoir, il doit démontrer minimum qu'il a 20% de ce que lui apporte, amène en apport personnel au regard de ses initiatives personnelles. Et le reste, c'est l'appui que nous donnons. Et ils effectuent un remboursement autour d'une année avec un taux de remboursement de 5% sur une année. Donc c'est vraiment insignifiant juste pour contourner cette difficulté-là liée à l'accès au financement.
Vous avez déjà encadré ou suivi combien de jeunes?
Alors à ce jour, la base de données reprend 240 en moyenne, voilà, 240 jeunes, au sein duquel la proportion hommes et femmes, on a pratiquement 48% des femmes et 52 projets portés par les hommes.
Vous pourriez dire sur les 240 jeunes, combien ont pu réussir à bien structurer leur entreprise et voir l'entreprise fleurir?
Alors, très bien. Alors, il faut reconnaître qu'aujourd'hui, sur les 240, je peux vous rassurer que 20% aujourd'hui ont un impact social, économique qu'on peut vraiment ressentir. Ça veut dire le chiffre d'affaires, au début, il était autour de 5 000 lans. Aujourd'hui, ils te font pratiquement 30 000 lans. Donc ça, c'est un élément important. Et dans cette proportion là-bas, je peux vous assurer que les porteurs d'idées qui avaient des idées à l'état embryonnaire, qui ont eu des projets structurés, aujourd'hui on a pratiquement 60% dans ces chiffres-là. Et aujourd'hui, ils sont en phase de lancement de leurs activités.
Par expérience, quels sont les domaines qui réussissent le mieux ici à Mbujimayi, en entrepreneuriat?
Ah, très bien. Déjà, très facilement, vous êtes dans l'agro-business. Là, je peux dire le maraîchage, déjà, c'est intéressant. Il y a vraiment des besoins là-dessus. Vous avez dans le côté service à la menuiserie. On est en train d'aller avec la cordonnerie maintenant à un level où ils doivent sortir de tout ce qui est traditionnel, mais avoir des équipements qui permettent d'avoir des produits fabriqués localement ici, de qualité. Donc, en dehors de ça, il y a le transport aussi qui marche très bien. En dehors du centre de transport, il y a ceux qui sont dans la coupe et couture, mais qui ont su avoir une bonne part de marché avec un nombre d'équipements bien spécialisés qui offrent des bons services. Donc c'est un peu diversifié dans ce sens-là. Et ce qu'il faut dire, c'est que nous restons toujours focus sur la valeur ajoutée.
Comment vous faites pour que ces jeunes viennent intégrer votre incubateur?
Effectivement, il y a le B2B, il y a tout ce qui se passe. Mais la réalité, c'est qu'au niveau de l'animation de l'écosystème, je vous ai dit qu'on a des événements qu'on organise. Ça peut être dans les universités, ça peut être des foires d'exposition, ça peut être le Kasaï I28 qu'on a organisé récemment. Donc c'est pour nous toujours des occasions pour réunir plusieurs publics, et tout en nous rassurant que les ambassadeurs qui sont nos entrepreneurs portent haut aussi le message et l'action de l'incubateur. Donc voilà, c'est cette communication que nous faisons. Mais on a un club d'entrepreneurs qui tient ses sessions chaque samedi ici. Et nous faisons en sorte que leurs activités sont pour son directement médiatisées en ligne. On essaie d'évaluer le nombre de participations. Donc tout ceci, c'est des éléments, des voies et moyens, des canaux pour nous rassurer que les entrepreneurs ou les porteurs d'idées de projets sont informés de ce que nous faisons.
En dehors du fait qu'ils n'ont pas accès au financement, est-ce que l'inexpérience joue aussi dans les difficultés?
Exactement. Cette inexpérience-là, c'est ce que j'appelle l'expertise qu'ils ont, en fait, l'intérêt qu'ils ont compris d'avoir des coachs. Des personnes qui sont vraiment outillées dans l'accompagnement des entrepreneurs. Et c'est ça qui vient relever le défi de l'inexpérience. Mais autour de ça, c'est vrai, il y a des infrastructures qui manquent. Et tout ça, il faut reconnaître que nous, en tant que société d'accompagnement, on ne peut pas jouer tous les rôles à la fois. Il y a des rôles pour lesquels c'est l'État qui est censé venir en appui. Raison pour laquelle, au niveau de cet incubateur, on a compris que l'entrepreneuriat ne peut pas se développer tout seul. Les acteurs ne peuvent pas être chacun dans son coin. On a mis en place un outil de gouvernance qui permet de fédérer le tout. C'est qu'aujourd'hui, il existe maintenant un cadre de concertation de l'entrepreneuriat. Je profite de ce micro pour lancer vraiment une invitation cordiale à tous les entrepreneurs. Et chez nous, la porte est vraiment grand ouverte à leur bénéfice.
Merci beaucoup.
C'est moi qui vous remercie.
Et si vous venez de nous prendre en cours de diffusion, vous écoutez Radio Okapi. Bienvenue dans Bana Okapi. Twitter, La lenteur de procédure bancaire et le critère d'octroi de crédit particulièrement strict découragent les initiatives des jeunes. C'est face à cette urgence qu'une initiative locale a germé en Boujimaï en 2020, la mise en place d'une structure de microfinance baptisée Communauté d'épargne et de crédit interne. Une réponse endogène pour pallier les carences du système traditionnel. Pour comprendre la genèse de cette communauté et les solutions concrètes qu'elle a apporté à l'autonomisation financière de la région du Kasaï oriental, nous avons joint au téléphone son président, M. Etaniel Kalonji. Suivez.
M. Etaniel Kalonji, bonjour.
Bonjour, M. Pascal.
Vous êtes président d'une communauté d'épargne et des crédits internes, ceci en sigle, une communauté qui est opérationnelle en Boujimaï. Boujimaï est une ville où l'accès aux opportunités de financement de la part des jeunes entrepreneurs est de plus en plus difficile avec les complications bancaires et les formalités qu'il faut remplir, les temps qu'il faut attendre. Mettre en place la communauté d'épargne et des crédits internes en Boujimaï, quel était l'objectif pour vous?
Merci beaucoup. Pour la petite histoire, Honesty Finance Group, qui est notre groupe d'épargne des crédits internes, a vu jour grâce à une approche qui faisait partie du projet Goudi Kadidi, un projet qui était mis en œuvre par CRS en partenariat avec quelques structures locales, dont Caritas, Racoge, Refet, et j'en passe. L'objectif était de rendre les communautés paysannes indépendantes. Parce que le projet s'appelait Goudi Kadidi, dans ma langue, ce qui s'est traduit en français par l'auto-prise en charge. Vous voyez, les communautés, comme partout en Afrique, les communautés paysannes sont des gagne-peu. Et parfois, parce qu'elles gagnent peu, elles ont du mal à réaliser certains projets, que ce soit privés ou communs ou communautaires en fait. Alors, il fallait les organiser autour de quelques activités commerciales ou agricoles et leur donner une orientation visant à leur permettre de s'autofinancer. Et cette approche s'appelait SILC en anglais, ce qui s'est traduisé par communauté d'épargne et de crédit interne, CECI en français. À l'époque où nous avons mis en place cette communauté, tous comme nous étions, je peux dire que nous étions collègues en fait, mais la grande partie d'entre nous vivait en Boujimaï. Alors on s'est dit, mais écoutez, on a quand même obtenu de bons résultats en encadrant la communauté dans cette approche. Nous pouvons aussi la créer en Boujimaï pour expérimenter et voir ce que ça va donner, pourquoi pas. On a aussi besoin de financer nos projets. C'est de là qu'est partie l'idée de mettre en place Honesty Finance Group, dont il est question à ces jours.
Est-ce que parmi les objectifs des créations de la communauté d'épargne et des crédits internes en Boujimaï, on peut aussi évoquer l'idée qu'il y avait un faible accès au financement de la part des membres actuels du groupe?
Effectivement, parce que tous nous venions des universités, nous sortions des universités. Vous connaissez tous qu'il y a un souci avec tout ce qu'il y a comme procédure pour accéder au financement de la part des banques commerciales. Alors on s'est dit, c'est beaucoup lourd pour nous qui venons de commencer la vie professionnelle. Et nous avons quand même un revenu régulier. Avec ça, on peut arriver à s'organiser pour épargner et organiser l'affectation selon les besoins présentés par chacun.
À quoi consiste la communauté d'épargne et des crédits internes du Congo? Est-ce que c'est une vision lointaine que vous incarnez aujourd'hui? Et qu'est-ce que vous faites de manière pragmatique en tant que communauté d'épargne et des crédits?
Bon, de manière pragmatique, nous avons des mises, en fait, d'abord des réunions que nous tenons deux fois le mois. Alors, nous avons défini un montant minimum pour la mise, un montant maximum. Et chacun vient selon ses moyens, selon son revenu. On met nos épargnes ensemble. Et supposons que le total pour nos mises du jour fait, par exemple, 1 500 $. Et qu'il y a quelqu'un qui a un petit projet. Supposons qu'il veut s'acheter une moto. Nous lui accordons, par exemple, 1 500 $. Et le remboursement est mensuel avec un taux d'intérêt conventionnel. C'est-à-dire, on s'est dit, par exemple, nous avons un taux d'intérêt de 5 mensuellement.
Ouais, les avantages Parlons-en maintenant, quels sont les avantages pour un membre d'intégrer la communauté et à la fois peut-être quels sont les avantages que cette communauté offre à la communauté sociale de la ville de Mbujimayi.
Bon, les avantages sont nombreux. Hein. Vous savez qu'actuellement, si vous gagnez peu d'argent, il vous sera pratiquement difficile d'épargner. Et déjà, en faisant partie de ce groupe, vous avez l'obligation d'épargner. Donc, c'est une discipline que vous développez au fur et à mesure. Et si vous avez des projets à court, à moyen, à long terme, oui, déjà, avec ce groupe, vous pouvez accéder ou y arriver sans problème. Oui. C'est beaucoup plus ça qui représente pour nous des avantages. Hein, parce que accéder à cet argent déjà gardé dans le groupe, il y a les intérêts et tout. Parfois, les gens refusent de le faire n'importe comment et attendent de mettre sur pied un projet pour venir solliciter le montant exigé ou requis et voilà, procéder au financement de leur projet, espérant rembourser dans le délai. C'est de cette manière-là que nous procédons, parce que pour accéder à un financement d'une banque, il y a autant de choses qu'il faut. Il y a des trucs à mettre en gage. Parfois, on n'en a pas les moyens et tout. Finalement, on peut avoir des bons projets qui meurent dans l'œuf, parce qu'on n'a pas eu accès à l'argent. Mais déjà, avec ce groupe communautaire, nous arrivons à faire quelque chose.
Et quelles sont les conditions d'adhésion des nouveaux membres dans les groupes? Ou bien c'est un groupe hermétiquement fermé?
Non, pas hermétiquement. Nous sommes ouverts et l'adhésion n'est pas aussi compliquée que ça. Nous avons juste besoin que la personne soit majeure d'âge. Vous devez être responsable sur le plan légal. Quand vous devez avoir 18 ans révolus, vous devez avoir un revenu et ou des activités commerciales, donc que ce soit dans le libéral ou dans une carrière professionnelle quelque part, pour vous permettre d'épargner et de rembourser au cas où vous arrivez à accéder au prêt du groupe. Parce que déjà quand vous travaillez pour nous, c'est une garantie, bien qu'il y a d'autres aspects sur le plan administratif, c'est-à-dire il y a une décharge que vous signez, il y a une fiche d'adhésion que vous devez signer. Tous ces aspects, c'est juste pour sécuriser l'argent du groupe.
Qu'en est-il de nos membres? Est-ce qu'eux aussi, ils peuvent avoir accès à des financements de la part de la communauté d'épargne et des crédits internes de Mbujimayi, à l'instar des entrepreneurs, par exemple?
Oui, s'il y a des entrepreneurs qui ne sont pas membres du groupe, ils n'ont pas accès directement, mais ils peuvent passer par un membre du groupe. Donc, ils doivent être parrainés par un membre du groupe. Pour qu'au cas où il y a un litige dans les processus de remboursement, que le parrain qui est membre du groupe endosse la responsabilité.
Comment la communauté d'épargne et des crédits internes de Mbujimayi accompagne les initiatives entrepreneuriales des jeunes et peut-être qu'au sein même de la communauté elle-même, il y a des entrepreneurs? Comment vous faites pour accompagner leurs initiatives?
Il nous arrive d'identifier quelques jeunes qui entreprennent déjà, qui sont dans le domaine. Et le plus grand souhait pour tous les membres souvent, c'est de faire de ces gens-là membres de la communauté, à leur montrer l'avantage qu'il y a en faisant partie du groupe et les accompagner, parce qu'il y a des gens qui entreprennent mais qui n'ont peut-être pas encore l'expérience dans le domaine. Et parmi nous, comme je vous ai dit, nous sommes partis d'un projet. Donc il y avait des experts qui accompagnaient la communauté dans certaines activités entrepreneuriales. Et ces experts, pour la plupart, ils sont encore avec nous. Ils prennent souvent les soins d'encadrer les gens qui sollicitent le prêt du groupe. De manière générale, ça marche. On commence d'abord par faire deux membres de la communauté. Et s'il y a des petites choses qu'ils n'arrivent pas à comprendre dans ce qu'ils font déjà, avant d'accéder au fond, tout en étant membre, il y a des petites expériences qu'on partage de manière à les goûter davantage et quelques compétences exigées dans le domaine.
La communauté a vu le jour en 2020, selon les explications que vous avez données. Où est-ce que vous comptez aller dans l'avenir? Quelles sont vos perspectives d'avenir?
Comme c'est le cas avec la plupart des banques commerciales qui nous proviennent de l'Afrique de l'Ouest, la vision de manière générale, c'est de devenir une microfinance. Si pas une microfinance, devenir une coopérative, quand même importante, ou d'une grande portée, hein, pour la communauté.
Monsieur Daniel Kalonji, je rappelle que vous êtes président de la communauté d'épargne et des crédits internes de Mbujimayi, c'est ici en sigle. Nous vous remercions pour toutes ces contributions et pour toutes ces clarifications à cet entretien.
Merci beaucoup, Monsieur Pascal.
Okapi, oh, oh, oh.
Face aux difficultés de financement, le recours aux prêts bancaires apparaît comme une solution. Cependant, l'absence de garanties solides constitue souvent un obstacle insurmontable inacceptable pour ces porteurs de projets. Pourtant, certains parviennent à franchir ces caps. Pour éclairer ces processus, nous recevons aujourd'hui un entrepreneur de Kinshasa qui a réussi à obtenir un crédit bancaire. Il va partager avec nous les clés de sa réussite, les démarches qui lui ont permis de convaincre son institution financière. Jean-Cy Kimbangu s'entretient avec Sarah Soumbela.
Monsieur Jean-Cy, bonjour.
Bonjour, madame.
Monsieur Jean-Cy, vous êtes entrepreneur depuis combien d'années déjà?
Je dirais officiellement 7 ans, parce que je peux compter par rapport à l'année où on a eu tous les documents officiels. Mais depuis toujours, je peux dire 10 ans.
Avez-vous déjà pu obtenir un crédit bancaire?
Oui, j'ai déjà à deux reprises obtenu de crédit bancaire.
Sachant que c'est difficile pour les banques en RDC d'accorder un crédit aux jeunes entrepreneurs, quelle était votre stratégie?
Bon, je ne parlerai pas de la stratégie, mais plutôt de la préparation, parce que les conditions sont fixées par la banque. C'est la banque qui fixe les modalités d'accès au crédit. Mais pour l'entrepreneur, je dirais c'est la préparation. Donc, pour avoir un crédit bancaire, il faudrait se préparer, notamment sur le plan légal. Il faut avoir les documents, il faut avoir, quand je parle de documents, c'est les documents de commerce, de l'entreprise, l'autorisation d'ouverture, vraiment être en règle avec le document. Ensuite, être fonctionnel, parce que la banque n'octroie pas le crédit aux entrepreneurs. Par des discours. Il faut être actif, il faut avoir des activités et puis vos activités doivent être tracées. Il faut vraiment que vous ayez des éléments probants pour prouver que vous fonctionnez et que vous faites vous avez des revenus, vous payez vos loyers, vous payez vos taxes et c'est toutes ces choses-là qui vous qualifient. Mais ça, ce n'est qu'une première étape. La deuxième étape, c'est au niveau du coût, du montant que vous sollicitez. La banque fixe des modalités selon les différentes catégories liées au montant que vous sollicitez. Ici, ce sont de petits montants, il y a des conditions assez légères, mais si vous accédez à des grands montants, là aussi, il y a d'autres conditions un peu plus coriaces.
Donc la banque, si je comprends bien, la banque n'octroie pas des crédits aux entrepreneurs qui veulent se lancer, mais plutôt à ceux qui sont déjà lancés et qui ont une activité fonctionnelle.
Déjà, il faut comprendre qu'en République démocratique du Congo, nous n'avons pas des banques de crédit. Nous avons des banques commerciales. Les banques commerciales, qui veut dire des banques qui travaillent pour faire des profits. On n'a pas des banques de crédit. Les banques de crédit financent des projets, même quand vous n'êtes pas actif, on finance les projets et on peut à la longue financer même ceux qui sont actifs parce que vous aurez à ce moment-là un prix-value pour obtenir facilement. Mais si vous n'êtes pas encore actif et que vous avez un projet bancable, un projet qui a tous les atouts possibles, la banque de crédit va vous financer. Mais quand on parle de banques commerciales, banques de crédit, comme je dis, au Congo, il n'y en a pas. Donc on a des banques commerciales. Les banques commerciales ne peuvent pas s'hasarder à financer des projets qui ne sont pas encore mis sur pied. De peur qu'ils perdent leur capital, parce que même des garanties bancaires qu'on demande aux entrepreneurs, c'est ça aussi la plus grande difficulté. Les entrepreneurs doivent chercher à avoir des garanties bancaires. Si vous n'en avez pas, vous n'avez pas des hypothèques, vous n'aurez pas accès au crédit. Mais même quand ils vont rendre un peu plus léger les hypothèques, on a toujours droit à avoir une activité qui fonctionne et des gages pour garantir leurs intérêts.
Et pour votre cas, avez-vous donné quelque chose en gage pour recevoir ce deux crédits?
Il faut avoir, par exemple, par rapport, je parlais par rapport au montant sollicité. Quand vous parlez du montant sollicité, nous avons le niveau de catégorie de catégories. Alors, si vous accédez, vous voulez avoir des catégories, par exemple, à plus de 10 000, 15 000 dollars de crédit, là, on vous exige carrément soit un bien immobilier, une parcelle, vous nous amenez le document, il faut que ça soit à votre nom ou vous soyez le responsable. Mais généralement, moins de 10 000 dollars, on demande des hypothèques comme la voiture en bon état. Peut-être que si vous avez votre argent, vous avez de revenus, vous pouvez muter votre compte dans la banque dans laquelle vous sollicitez le crédit et votre argent sera pris comme gage. Tout ce qui entre là-bas, ce sera confisqué jusqu'à l'épuration du crédit. Mais aussi, en tant qu'entrepreneur, il faudrait avoir... vous allez déterminer combien vous sentirez à l'aise pour rembourser le crédit. Et c'est sur base de ça que la banque, en tant qu'entité commerciale, va réfléchir avec leurs experts pour démontrer la capacité, votre capacité d'avoir le crédit. C'est la banque maintenant qui va dire, bon, si vous allez rembourser 500 dollars pendant autant de mois, pour nous, on pense que pour ne pas vous surcharger, vous aurez telle catégorie de crédit. Parce que la banque n'est pas seulement là pour financer, mais elle est là aussi pour orienter l'entrepreneur afin de ne pas avoir de complications, parce que dans l'entrepreneuriat, il y a aussi des profits, mais plus des risques aussi. Donc la banque se met non seulement comme une entité de crédit, mais comme votre conseiller aussi financier pour vous amener à l'apogée. Plus vous évoluez, plus la banque aura la facilité de vous octroyer encore plus de crédits. Et pour la banque, ça sera une activité rentable.
Et alors, il y a une autre condition dont on a entendu parler, le garant. Que pouvez-vous nous dire sur ce sujet?
Les garants, en tout cas, c'est devenu monnaie courante dans toutes les banques qui donnent le crédit. Mais les garants viennent lorsque vous n'avez pas... assez de moyens pour hypothéquer, pour garantir votre crédit. Une fois que vous avez de quoi à garantir votre crédit, imaginez-vous, vous voulez prendre un crédit de 15 000 dollars et que vous avez une hypothèque de plus de 50 000 dollars, la banque n'aura pas besoin de garant parce que elle s'est dit, même si vous aurez à l'extrême des difficultés pour rembourser votre crédit, ils auront toujours un moyen de récupérer leur argent. Parce que je souligne que les banques sont des banques commerciales, ils visent les profits.
Merci beaucoup, Monsieur Jonsi.
Et c'est par ici que nous bouclons ce numéro du magazine Bana Okapi qui s'est penché sur le défi de l'entrepreneuriat que rencontre le jeune de la province du Kasaï oriental. Vous souhaitez réécouter cette émission, revivre ces moments forts ou encore découvrir nos autres productions? Rendez-vous dès maintenant sur le site de Radio Okapi, www.radiookapi.net. Et n'oubliez pas, la discussion ne s'arrête pas là. Rejoignez-nous sur Facebook Bana Okapi pour partager vos impressions et poser vos questions. Nous serons ravis de vous retrouver et d'échanger avec vous. Nous disons merci à toute l'équipe qui a contribué à la réalisation de cette émission. Soulamit Kipouni, Jeff Opela, Ezekiel Mousalia, Potin Mbinga, Guylaine Kassassia, Pascal Chinamoula, Grace Mwezolo, André Kitenge, Stanislas Dumi, Kelvin Bayeni, Greta Lulendo, Sarah Sumbela, sans oublier Amel Amouli. Merci également à Christian Mapendano à Chris pour la coordination de ses programmes, à Jean-Marc Matuaki pour la supervision et à Dieudonné Nyangasa wa Nyangasa pour la mise en onde. Je suis Christelle Priti Mangwa à la présentation. À tous nos auditeurs, merci de nous avoir accompagnés. On s'est dit à très bientôt pour de nouvelles aventures avec Bana Okapi. Ciao.